Vous êtes sur RTL.
Avec Christophe Decroix. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Et à la une, l'Algérie, où depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, les arrestations de dirigeants d'entreprises se multiplient.
Le dernier en date, c'est le PDG du premier groupe privé d'Algérie, Issad Rebrab, est considéré comme la première fortune du pays. Il a été incarcéré dans le cadre d'une enquête anti-corruption et fausse déclaration. Son groupe Cevital est propriétaire du quotidien algérien Liberté, qui se montre souvent critique vis-à-vis du pouvoir. Il a aussi racheté en France le groupe d'électroménager Fagor Brand et Oxo, un groupe qui emploie tout de même 18 000 personnes dans l'électronique, la sidérurgie ou le BTP.
Et il n'est pas le seul à se retrouver derrière les barreaux donc.
Non, quatre frères de la puissante famille Kouninef, spécialisés dans le génie civil et le BTP, ont également été arrêtés. Ce sont des proches de Saïd Bouteflika, le frère et conseiller de l'ex-président. Avant eux, c'est Ali Haddad, propriétaire du premier groupe de BTP du pays, mais aussi patron des patrons, qui avait été interpellé alors qu'il s'apprêtait à passer la frontière de nuit. Ces arrestations interviennent alors que des milliers d'étudiants ont encore défilé aujourd'hui à Alger pour réclamer, je cite, le jugement du gang, mais aussi le départ du système au pouvoir.
À l'approche des élections européennes, il y a du rififi dans la famille Johnson.
Vous connaissez Boris, bien sûr, député et ancien ministre des Affaires étrangères, figure des pro-Brexit en Grande-Bretagne. Eh bien, sa sœur Rachel, 53 ans, annonce qu'elle se présente, elle, sur une liste pro-Europe. Elle est journaliste et écrivaine et pense, contrairement à son frère, que les Britanniques sont bien mieux au sein de l'Europe. Rachel Johnson a donc rejoint un nouveau parti, Change UK, qui réclame un nouveau référendum en espérant voir le Royaume-Uni rester dans l'Union européenne.
Poutine va recevoir Kim Jong-un.
Ça se passera jeudi à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe. Après l'échec de ses dernières négociations avec Trump, le leader nord-coréen cherche de nouveaux soutiens internationaux. La Russie lui fournit déjà de l'aide alimentaire, mais Kim Jong-un a besoin de bien plus dans son bras de fer avec le président américain.
Et puis Christian Louboutin, créateur des fameux escarpins à semelles rouges, trouve l'inspiration au Pakistan.
Imran, c'est le nom de l'un de ses derniers modèles, s'inspire en effet des sandales pakistanaises, plus connues là-bas sous le nom de chapal. La chapal a une semelle en caoutchouc avec des bandes de cuir sur les pieds. Au Pakistan, elle est portée par presque tout le monde, pauvre comme riche. Louboutin l'a évidemment un peu revisité en y rajoutant de la couleur et des petits pics métalliques. Mais au pays des purs, cela fait soit hurler, soit rigoler. Ceux qui ne comprennent pas qu'on puisse dépenser à Paris des centaines d'euros pour une sandale qui ne vaut sur place que quelques roupies.
Merci Christophe.
RTL Monde.
Marc-Olivier Fogiel.
Direction l'Argentine pour le grand format d'RTL Monde, où la lutte pour la légalisation de l'avortement continue. L'année dernière, le texte avait été rejeté au Sénat, mais le sujet revient sur le devant de la scène avec l'histoire d'une fillette de 11 ans, poussée à réaliser une césarienne après avoir été violée par le compagnon de sa grand-mère. Les féministes se mobilisent. Le reportage de Flora Genoux.
Sur de nombreuses pancartes, on voit ces mêmes mots. Ce sont des fillettes, pas des mères. Le cas de Lucia, qui a subi une césarienne à 11 ans, frappe les esprits. Maria est grand-mère et elle est particulièrement chamboulée.
Moi, j'ai honte de ce pays. On a perdu la raison. C'est vraiment atroce. C'est une abomination nationale.
Un fait divers qui a révélé cette réalité. En Argentine, toutes les 3 heures, une fillette âgée de 10 à 14 ans accouche. En général, la grossesse est le résultat d'un viol ou alors non désiré. Alors, plus que jamais, cette année, les manifestantes féministes souhaitent faire approuver la légalisation de l'avortement. Josefina est étudiante.
C'est une étape nécessaire pour nous permettre d'avoir la maîtrise de notre corps et de notre vie. Si malheureusement la loi n'est pas votée cette année, elle le sera l'année d'après. Mais cela va arriver car nous sommes fortes et unies.
Un nouveau projet doit être déposé. La grande inconnue, savoir si le Parlement ouvrira les débats en cette année d'élection. Pour la députée Araceli Ferreira, ce calendrier est justement favorable au texte.
Ils n'ont pas voulu approuver la loi l'année dernière. Eh bien, ils vont être obligés d'en débattre pendant toute la campagne. Dans l'esprit des gens, l'avortement est déjà dépénalisé. Et si les candidats souhaitent obtenir le vote des femmes, ils vont devoir le légaliser.
En attendant, les féministes veulent continuer à manifester cette année. Ici, on retrouve les codes de mobilisation qui font l'identité de la lutte pour l'avortement légal. Des chants festifs, des paillettes sur les visages et de très jeunes militantes, souvent lycéennes ou collégiennes. Julia Martino fait partie de la campagne pour la légalisation de l'IVG.
Face à l'émergence d'un mouvement féministe, les secteurs catholiques et évangéliques se sont organisés.
Et les politiques sont sensibles aux pressions que ces groupes exercent.
Une vague conservatrice de plus en plus installée, les groupes évangéliques viennent de lancer une ligne téléphonique anti-avortement destinée aux femmes découvrant une grossesse non désirée.
Marc-Olivier à suivre dans RTL Soir, le journal, deuxième édition.
Et nous serons à Notre-Dame où des ouvriers sont en train de recouvrir la cathédrale d'une bâche puisque le ciel est menaçant à Paris.
RTL Soir.